France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
J'ai une copine qui n'arrivait plus à se regarder dans la glace quand elle a perdu ses cheveux. Elle en rigole aujourd'hui puisqu'elle va bien, mais comme il fallait passer devant un grand miroir pour entrer dans sa chambre, elle allait se coucher en courant. Pour la cicatrice à la place du sein gauche, une autre m'a raconté qu'elle s'est douchée en fermant les yeux pendant plusieurs semaines. C'est difficile de voir son corps sans les dire, mettons des mots sur les choses, c'est pas beau, un cancer et un cancer de la féminité renvoient en plus au désir, à la séduction, je ne vous apprends rien. Refuser de se voir, refuser de se toucher, c'est aussi refuser que l'autre vous touche et vous regarde, et il n'est pas toujours évident qu'il le comprenne. Avoir un cancer du sein, c'est aussi quand un conjoint ne peut pas ou ne veut plus vous toucher et vous regarder. Avoir un cancer du sein, ça vous bouscule évidemment vous, mais ça bouscule aussi votre conjoint par ricochet, et penser que le couple en sortira parfaitement indemne est une utopie. J'ai croisé cette statistique en préparant cette émission. Une femme a 6 fois plus de risques de voir son conjoint partir après le diagnostic que l'inverse. C'est pas très reluisant, on lit des témoignages qui font vraiment mal et attention, je n'invente rien. Qu'est-ce que t'as, tu fais la gueule ? Non, je suis fatiguée. Tu veux pas mettre ta perruque ? Ok. Tu veux pas mettre une écharpe parce qu'on voit un bout de ta cicatrice ? Ok encore. Est-ce qu'après la chirurgie, tu ressembleras exactement à ce que t'étais avant ou pas ? Ben, pas exactement. Toutes les histoires, évidemment, ne ressemblent pas à celle-là, et heureusement. Mais quand même, il faut savoir, ne pas confondre, ne pas transformer sa peur en colère, son dégoût de la maladie en dégoût de l'autre. Et nous allons essayer de brasser tout ça dans notre discussion, raconter le couple qui tient la barre ou qui explose, ce que vous avez entendu, ce que vous avez traversé, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Sophie, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Sophie, bonsoir.
Merci Fabienne.
On vous écoute.
Oui, en fait, moi j'ai eu un cancer déclaré en 2023, en chimiothérapie jusqu'à fin 2024, avec radiothérapie, j'ai perdu mes cheveux, ablation partielle du sein. J'ai traversé tout ça avec beaucoup de fatigue, bien, comme tout, beaucoup de femmes. Mais moi, par contre, j'ai décidé de quitter mon mari aujourd'hui parce que, en fait, là où vous avez besoin d'une épaule quand vous êtes vraiment au plus bas, bah, la première personne vers qui vous tournez, c'est quand même votre mari. Et puis voilà, ça n'a pas été. Pour lui, ça a été compliqué aussi, hein, parce qu'il m'a avoué avoir fait une dépression, c'est quelque chose de très fort quand même, un cancer. Donc ça n'a pas été facile, c'est pas un monstre non plus, mais quand j'étais au plus bas, et comme je l'ai raconté, quand vous avez besoin de que quelqu'un vous fasse une soupe tout simplement, que vous n'avez pas la force d'éplucher une carotte et que votre mari n'arrive pas à le faire, ça devient compliqué. Quand il vient pas au rendez-vous important avec vous, ou qu'il vous demande est-ce que tu veux venir, c'est des choses qui vont pas en fait. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de tourner la page, et puis pour me reconstruire au mieux, de me séparer. Et c'est une décision qui est très claire pour moi.
Et c'est intéressant donc, parce que vous l'avez fait après en fait, Sophie. Au fond, je vous écoute, j'ai l'impression que c'est une fois que vous êtes capable de comprendre ce que vous avez vécu, et que vous asseyez pour comprendre ce qui vous est arrivé, vous faites le tri en quelque sorte en fait dans ce que vous avez vécu.
Oui, et puis de toute façon, quand vous êtes en soins, vous n'avez pas la force en fait de faire ça, vous n'avez pas la force de prendre une décision et d'aller de l'avant. Vous n'avez qu'une chose en tête en fait, c'est votre guérison, donc vous prendre en charge. Et voilà, je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort, donc je me suis pris vraiment en charge. J'ai été aidée par ailleurs par des amis aussi, qui m'ont amené de la soupe. Mais voilà, donc en fait.
Et il a compris, lui, ou pas, Sophie ? Il a compris ou pas ?
Oui, bien sûr que quelque chose était cassé. Donc il sait très bien la posture qu'il a eue. Donc je vous dis, c'est pas un monstre non plus. Il a su aussi faire les courses, me ramasser par terre quand je me suis évanouie, bien sûr. Mais des choses essentielles comme ça, je vous dis, faire à manger, ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas en fait.
Non,
quand vous êtes très très faible.
Et au fond, même, on se dit que c'est. Ouais, je comprends bien. Et au fond, on se dit même que c'est presque le plus important, parce qu'après tout, votre conjoint n'est pas médecin. Oui. Donc là, il y a des choses sur lesquelles il est complètement impuissant. Mais en revanche, effectivement, faire une soupe, demander si ça va.
Oui, c'est ça, en fait. Et puis, il était à côté de moi, en fait. Voilà, pas participatif. Alors chacun, c'est pas évident pour tout le monde, dans cette histoire-là, mais évidemment les couples n'en sortent pas indemnes, ça c'est évident. Évident.
Sophie, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et pour cette entrée en matière. Et on croise les doigts pour vous et pour la nouvelle vie que vous avez en face de vous. Merci vraiment pour discuter ensemble jusqu'à 20h avec nous. Il y a Mariam Abdullah, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes patiente ressource de la Ligue contre le cancer. Mmh. Vous, votre cancer du sein a duré 4 ans, de 2019 jusqu'à 2023, la fin de la reconstruction, est-ce que je me trompe ?
Oui.
Voilà. Il y a Patrick Bensoussan qui est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre à Marseille, vous avez dirigé pendant plus de 20 ans le département de psychologie clinique de l'Institut Paoli Calmette, qui est le centre régional de lutte contre le cancer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez écrit un livre dont je ne me lasse jamais du titre, « Je ne vous ai pas guéri, mais j'ai le toupet de penser que vous êtes mieux porté » aux éditions RS en 2023. Mariam Abdullah, alors vous, votre couple va bien, d'abord c'est important de le dire quand même, toutes les histoires ne ressemblent pas à celles de Sophie. Ce que je trouve très émouvant, c'est qu'en effet, on se dit que le compagnonnage, c'est plus la soupe de carottes, les petites aides de ce genre-là, que quelque chose de plus médical, en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile.
Oui, en effet, le cancer arrive dans notre vie. Là, le cancer du sein, il nous atteint dans notre intimité, dans notre identité en tant que femme, en tant que maman, en tant que conjointe. Et finalement, c'est important de le dire, c'est qu'on a du mal aussi à trouver la place de chacun, à préserver la vie qu'on a à côté du cancer. C'est ça qui est très difficile, parce que tout d'un coup, on se retrouve malade, et on se retrouve le malade qui est suivi à l'hôpital. On est focusé sur la guérison, mais il faut qu'on soit accompagné, qu'on puisse aussi faire vivre toutes ces cellules qui sont encore vivantes. Moi, j'ai pour habitude de dire que j'ai quelques cellules qui sont malades, mais j'ai beaucoup de cellules qui sont encore vivantes. Et il faut pouvoir les préserver. Et c'est difficile de laisser une place aussi aux conjoints, aux proches là-dedans.
Et on y viendra effectivement avec le témoignage suivant. Il y a à la fois l'attitude que peut avoir le conjoint, mais l'attitude qu'on a nous aussi parfois par rapport à ce conjoint. Patrick Bensoussan, est-ce que ça fait partie des... Pas forcément des premières choses qu'on dit, parce qu'elle a raison, Mariam, la première chose, on est tous concentrés sur la guérison d'abord et le fait de se soigner. Mais est-ce qu'au fond, très rapidement, est-ce que c'est pas aussi votre travail à vous, c'est de prendre le conjoint par la main, lui dire il va se passer des choses chez ta femme, il y a des choses auxquelles il va falloir se préparer?
Oui, bien sûr, c'est cette assurance que la maladie cancéreuse, et d'autant le cancer du sein, n'est absolument pas une maladie solitaire qu'on vit seul dans son coin. L'expérience même de la maladie, bien entendu, elle est totalement personnelle et intime pour la personne qui la vit, mais le cancer, quand il arrive dans une famille, il arrive dans un couple, il touche à la fois le conjoint, il touche les enfants, il touche les collègues de travail, etc. Donc il y a une constellation incroyablement importante qui est touchée dans ce type d'atteinte-là, et il faut vraiment prendre en compte cette dynamique.
Est-ce qu'il vous arrive de demander à vos patientes « Amenez-moi votre mari la prochaine fois. Est-ce qu'il sait que comment ça se fait que je ne l'ai pas vu lors de la dernière chimio, etc. » Ça vous arrive de faire ça, ou c'est trop intrusif de votre côté, Patrick Bensoussan ?
Oh bah, vous savez, moi, il m'arrive de faire des choses totalement incroyables, mais c'est pas le lieu pour les évoquer. Mais bien entendu, je crois que cette question, elle est vraiment capitale. Hein. C'est ce que disait la personne au téléphone à l'instant. Enfin, cette assurance que être à côté, c'est plus possible. Il faut être ensemble. Il faut partager. Il faut l'idée de la soupe, l'idée d'aller faire les courses, d'accompagner, d'amener les enfants quelque part, de s'occuper de tel ou tel élément, c'est vraiment des petites choses qui semblent être des petites choses, mais qui sont incroyablement capitales. Vous savez, cette bande dessinée, là, d'Emma sur la charge mentale, qui s'appelait « Fallait demander », il faudrait plus dans les couples, les hommes demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» quand leur femme est atteinte d'un cancer du sein, il faudrait pouvoir se déterminer comme ça, simplement, spontanément. Mais on voit que c'est pas simple, hein.
Non, c'est pas simple, et c'est surtout statistiquement assez raide, en fait, pour dire les choses très honnêtement. Voici Stéphanie qui nous attend. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, je suis en rémission d'un cancer du sein qui s'est déclaré en 2021 et je suis sous hormonothérapie. J'ai pas eu de chimio, heureusement, mais par contre, j'ai eu deux opérations et une mastectomie partielle, la radiothérapie, et j'ai une très grosse cicatrice. Et c'est vrai qu'au départ, je ne supportais pas mon corps, en fait, alors que mon mari a vraiment été adorable. Il a montré aucune réticence, mais c'est moi qui bloquais et je pouvais pas passer devant une glace, je pouvais même pas me regarder ni mettre de la crème. En fait, c'était vraiment à ce point-là. Et après, avec l'hormonothérapie, j'étais pas ménopausée, donc je me suis pris la ménopause x10, donc ça a été la double peine. Et là, vraiment, j'avais encore du désir pour mon mari, mais par exemple, je restais habillée, je gardais un t-shirt, je voulais pas qu'il me voie avec les stigmates de la maladie. Et en fait, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même, et c'est la danse qui m'a aidée à me sortir de là, reprendre le contrôle de mon corps et à me sentir jolie et féminine, mais ça a été vraiment un gros travail de ma part, alors que mon mari, vraiment, il n'y a eu aucun souci de son côté, c'est moi qui bloquais.
Merci beaucoup Stéphanie pour ce témoignage. Mariam Abdoullah, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que dit Stéphanie? C'est-à-dire qu'il y a le moment où il faut s'accepter soi, et donc accepter que l'autre vous regarde. Ce qui est très compliqué parfois pour le conjoint, justement, c'est qu'il faut avancer à votre rythme, et pas au sien. Peut-être que c'est ça la difficulté.
Oui, c'est bien ça en fait. Avec du recul, maintenant, je me dis que le cancer, c'est il y a un avant, un pendant et un après. Et on a par réflexe de se dire, bon, une fois que les traitements sont finis, on fait la reconstruction, on tourne la page.
C'est fini.
Et ça, c'est important, c'est qu'on ne peut pas tourner la page, parce qu'on garde quand même toutes les marques du passage du cancer dans notre corps, sur notre corps, quand on se regarde, quand on le vit. Et il faut pouvoir faire ce travail pour continuer à, non pas à se reconstruire en imaginant qu'on sera comme avant, mais construire avec d'autres bases. Et pour le conjoint, c'est pas évident, parce que même avec une reconstruction, on reste quand même, nous, dans notre chair, on reste meurtri et on ne reconnaît pas ce qu'on a. Donc c'est tout un travail. Moi, je me reconnais tout à fait dans ce qu'elle disait.
J'aime bien ce que dit Stéphanie Patrick Bensoussan, parce que ça dit vraiment, alors moi j'ai mon rythme, si je ne m'accepte pas moi, de toute façon j'accepterai pas qu'on me regarde. Donc je vais le faire à mon rythme, mais j'aimerais bien que l'autre suive ce rythme-là. Et ça aussi, ça fait partie des choses, j'imagine, dont vous discutez, vous, avec les patients, mais aussi les patientes, mais aussi avec leur conjoint. Laisse-la faire comme elle veut, et tu verras que tu la rattraperas un moment.
Oui, et dans le même temps, vous imaginez bien que le regard qu'une femme va porter sur son corps, atteint de maladie cancéreuse ou pas, il est aussi induit par un certain nombre de représentations, de normes sociales, de marqueurs culturels, etc., etc. Et que il y avait à l'époque une recherche qui avait été faite, par exemple, sur l'allaitement, et qui disait combien l'impact de la décision du mari était importante dans la mise en acte de l'allaitement chez la femme. On voit bien aussi que dans le cadre du cancer, le regard masculin porté sur le corps de son épouse dans un couple est aussi quelque chose de particulièrement pertinent. C'est aussi à partir de là que se construit l'identité propre de la femme. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre compte, parce que il y a le réel même de ce que vit la femme dans sa maladie et dans son corps. Et puis il y a aussi tout ce qui est induit par toutes ces représentations, ces symboliques, ce regard masculin qu'on évoque souvent, hein. Et sur quoi il faut être attentif.
Et il y a aussi, c'est ce que disait Mariam Abdoullah à l'instant, ce ne sera jamais comme avant. Donc malgré la reconstruction, malgré tout ça, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut intégrer, et intégrer dans le couple. Il n'y a pas un moment où c'est fini, puis hop, allez, on passe à autre chose, c'est comme si rien ne s'était passé.
Bien sûr, mais le avant, ça ne veut pas dire pire.
Bien sûr.
C'est pas dans cette idée, ça ne sera jamais comme avant, ça veut pas dire que...
Oui, absolument, ce sera juste différent.
Voilà, immanquablement, ça va être terrible, et on rêve tous, hein, vous savez, c'est ce que disaient les latins, restitutio ad integrum, retrouver l'intégrité, hein, et puis retrouver le temps d'avant la maladie comme un espèce de temps qui d'ailleurs n'a jamais existé, hein, qui est un temps magnifique et magique. On peut très bien être différemment le même, hein, comme disait un de nos collègues, et pouvoir traverser la réalité d'une nouvelle façon d'habiter son corps, de nouvelles sensations, de nouveaux rapports à l'autre, qui sont foncièrement différents de ce qui était établi auparavant, mais c'est pas pour ça qu'ils sont terriblement négatifs.
François est avec nous, bonsoir François. François ? Est-ce que François est là ? Eh ben visiblement François n'est pas là, mais c'est pas grave, si François n'est pas là, il va sûrement réapparaître à un moment. On a ce message sur WhatsApp de Corinne, qui est assez terrible et qui dit « Bonsoir, un témoignage parmi d'autres, cancer du sein diagnostiqué, mon conjoint père de nos deux enfants était très distant, nous dit-elle, et j'ose lui demander, bah, tu veux qu'on se sépare ?» Et sa réponse a été « Oui, j'ai pas envie de rester moine à 50 ans. » Pouf. C'est quand même d'une terrible violence. Ça veut dire, en gros, ce que ça dit, Patrick Bensoussan, cette remarque, c'est il n'y a plus de sexualité, tu n'es plus un être sexué, désormais je ne te reconnais pas comme étant un être sexué. C'est ça que ça dit, en fait.
Oui, bien sûr. Enfin, ça dit simplement que le sein, les seins, c'est l'organe du féminin par excellence. Hein. Et ça incarne la féminité, ça incarne la sexualité, ça incarne la maternité, certes, mais c'est incroyablement chargé. Hein. Et donc, du coup, le corps des femmes, quand elles sont atteintes d'un cancer du sein, semble être totalement dépossédé de la réalité même, de ce qui fait, eh ben, ce qu'on met derrière le mot de féminité, la grâce, le charme, la délicatesse, la jeunesse aussi, enfin, la séduction, vous voyez, des tas d'éléments qui sont incroyablement portés par ça, et du coup... mais peut-être il faut revenir sur cette représentation des espèces de types qui sont que des salopios et qui se barrent dès que leur femme est malade.
Bien sûr, mais clairement, que... mais pas 100%, hein, et d'ailleurs on l'a bien dit spécifiquement, bien sûr qu'il y en a qui sont formidables, la question ne se pose pas, ça existe aussi.
Pas qu'il y en a qui sont formidables, habituellement, statistiquement, les mecs ne se débinent pas. Il y a des représentations comme ça qui sont très actives là-dessus, hein. Mais la stabilité conjugale après le cancer du sein a été démontrée par un nombre incroyable d'études. Et la représentation, là encore, qu'on en a, c'est le mec se barre parce qu'il veut aller trouver son bonheur et sa sexualité plus épanouie ailleurs et pas au pleurer de cette femme qui est diminuée. Mais ça, c'est aussi une représentation qui est particulièrement active aujourd'hui. Il faut pas continuellement développer cette réalité-là.
Heureusement. Mariam, un mot avant de retrouver François, qu'on a finalement récupéré au standard. Est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que vous avez eu cette conversation avec votre homme ? Est-ce que vous lui avez posé cette question comme ça ? Est-ce que t'es sûr que tu m'aimeras encore ? Est-ce que des mots comme ça ont été prononcés ?
Alors, je ne lui ai pas posé la question, parce que ça a été assez rapide, donc on est rentré dans le vif du sujet avec la chimiothérapie. Moi, j'ai eu la chimiothérapie néo-adjuvante, j'ai eu une tumorectomie, et finalement, il a fallu passer par la mastectomie. Mais je me suis posé la question, parce que au-delà de ma poitrine que j'essayais de sauver, cette image féminine, il ne faut pas oublier non plus, on perd ses cheveux. Les chimiothérapies, les traitements aussi jouent sur la vie sexuelle en tant que telle. La libido, les sécheresses, les choses comme ça, et qui sont un cumul en fait de notre intimité avec notre conjoint. Et c'est vrai que c'est délicat de poser la question parce qu'il y a la culpabilité. On se sent déjà coupable d'avoir ramené tout ça au sein du foyer. C'est peut-être un peu trop pour nous aussi d'aller au devant de la réponse.
Mais je comprends. Il y a des questions que parfois on n'a pas envie de poser parce qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse, ou alors c'est pas le moment d'entendre cette réponse. Laissons-nous le temps. Voici François qu'on a retrouvé. Bonsoir François.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute François.
Eh bien, moi, je voulais apporter mon témoignage, puisque ma femme a eu un cancer du sein il y a 14 ans maintenant, elle avait 37 ans, et on est rentré dans cette espèce de train fantôme, et tout s'est accéléré de façon assez très violente et dramatique. Et donc, quand j'ai entendu le thème du téléphone sonne, j'étais en voiture, et ça m'a fait tilt, parce que mercredi dernier, 14 ans après, on était en octobre 2011, ma femme, Lucille, a subi une autre chirurgie de reconstruction, ma mère. Donc, 14 ans après, même si, elle est sortie de cette période difficile, eh bien, il y a encore, on est encore confronté à cette maladie. Et puis, je voulais apporter le témoignage d'un conjoint, parce que le rôle du conjoint, il est vraiment compliqué. il est vraiment compliqué parce que nous on ne souffre pas dans notre chair, mais on souffre quand même psychologiquement énormément. Après, je pense que ça a été, moi, la perte de ma vie où j'ai quelque part été le plus courageux. Je suis pas le plus courageux des hommes, mais là, je pense que j'ai fait preuve de courage parce qu'il fallait affronter ça à deux. Et puis que nos enfants étaient petits, Garance avait 7 ans et Germain 4. Donc c'est tout notre quotidien qui est bouleversé.
Du coup, François, vous l'avez eu cette conversation ou pas? On sait qu'on va rentrer dans un tunnel, on sait que ce sera moche. Y a des moments où on va se disputer, c'est idiot parce que c'est à la maladie qu'on en voudra, mais bêtement on s'engueulera l'un l'autre. Vous avez eu cette conversation avant ou pas?
Oui, il y a des mots. Enfin, alors ce qui s'est passé, c'est que ça va tellement vite que en fait la question de l'intimité du couple, elle se pose pas tout de suite. Donc il y a eu un protocole de chimio, de 6 chimio, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Et puis il faut essayer d'assurer le quotidien parce que les enfants sont des éponges. Donc on commence par ça et après l'intimité du couple, bah oui, ça vient et on voit bien que ça ne sera plus jamais pareil et qu'il va falloir quelque part se réinventer. Alors voilà, c'est compliqué. Nous, on a eu la chance, on s'est connus à 18 ans au lycée. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble. Donc, le couple était déjà plutôt solide, avec des bases solides, avec un environnement familial aussi qui était là derrière.
Dites François, est-ce que vous avez eu besoin de parler à un homme, en fait, peut-être à un autre mari dont la femme, enfin parce qu'il y a des choses effectivement dont on a envie de parler, exactement comme les femmes quand elles ont envie de parler entre elles et les hommes aussi, ça vous a fait envie? Est-ce que vous l'avez trouvé ça ou pas?
Quand on a discuté avec des amis, que ce soit des amis femmes, des amis hommes sur cette période, mon frère, ma sœur, mes parents, ma belle famille, moi j'ai toujours essayé d'être le plus, de m'exprimer sur ces questions. Alors, on peut pas rentrer dans, bien sûr, l'intimité la plus profonde, mais j'ai jamais eu trop de difficultés à m'exprimer là-dessus. Après, moi je suis toujours étonné qu'il y ait beaucoup d'hommes qui quittent le couple.
Ou qui paniquent, en tout cas.
Et qui paniquent, oui, je pense qu'il y a un sens. Moi aussi, j'ai paniqué. Enfin, on sait plus, on comprend rien. Enfin, on se prend une bombe sur la tête, tout s'écroule, et puis, le lendemain, il y a l'école, il y a faut emmener les enfants à l'école, faut retourner au boulot, il faut tout se réorganiser et tout faire pour qu'elles s'en sortent, quoi. Après, j'ai envie de dire, l'intimité du couple, elle arrive après. Mais bien sûr, tout a été réinventé. Alors, des fois, c'est compliqué, parce qu'on est touché dans sa chair et on comprend les difficultés que peut rencontrer sa femme. Moi, après, elle m'a tellement donné de leçons de courage que, quelque part, j'ai envie de dire, je l'aime comme au premier jour, et malgré tout ce qu'elle a vécu, mais c'est son corps. J'essaie de lui laisser, enfin, c'est à elle, ce sont ses choix. Là, elle a voulu faire de la reconstruction pour justement se sentir encore mieux dans son corps, le rapport à ses seins, j'ai envie de dire. Je ne peux que l'accompagner même si je l'aime comme elle était avant, comme elle a été après, enfin voilà. Mais je veux aussi donner ce témoignage, c'est aussi pour dire que c'est extrêmement compliqué, heureusement on peut s'en sortir, et puis que quelque part c'est aussi renforcer le couple, et puis quand il y a des enfants, tout ça, je trouve qu'on, enfin je vois pas comment on ne peut pas accompagner et mettre toutes ses forces dans cette bataille, quoi.
Merci beaucoup.
C'est une réelle saloperie.
C'est moins qu'on puisse dire, François. Merci beaucoup, vraiment, pour les jolis témoignages. Patrick Bensoussan, un mot sur le témoignage de François. Et moi, ce que j'en retiens surtout, au fond, c'est il faut tout dénouer, en fait. C'est-à-dire dénouer le facile et le difficile, aller jusqu'à dénouer la honte de son corps. Il faut tout dénouer. Quand on peut, il faut tout dénouer et le dénouer à deux.
Oui, mais vous le dites bien, quand on peut.
Et
ce que disait François, c'était aussi l'histoire qu'il avait créée avec son épouse bien des années avant la survenue de ce cancer. C'est les enfants, c'est ce qui crée du lien, en fait, et qui est là pour témoigner de cette réalité que la maladie cancéreuse, le cancer du sein, mais parfois un certain nombre d'événements, qu'on va dire traumatiques, entre guillemets, de la vie, viennent affecter un couple en fonction de sa capacité à pouvoir tenir, avancer, être solide, Covid, etc. quoi. Et qu'on voit très vite que la violence de la maladie cancéreuse, la violence et spécifiquement du cancer du sein, hein, pour cette atteinte à la sexualité, à la maternité, elle vient infracter de façon vraiment importante les bases de solidité d'un couple. Et si le couple est un peu vacillant, si des questions se posent, si tout ce que vous voudrez, ben, c'est une tempête qui envoie la maison de paille ou de briques en l'air, et puis après, on ne peut rien, quoi. Il y a quelque chose de cette idée, quoi, que le cancer est un loup qui rentre dans la bergerie, quoi. Et à un moment donné, il peut faire imploser l'entièreté de la bergerie. Et ce n'est pas simplement la réalité même de la maladie cancéreuse, mais c'est comment est-ce qu'un couple va pouvoir être résilient face aux difficultés qu'il peut rencontrer. Donc ça témoigne aussi beaucoup de la question de qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce que c'est que l'amour qu'on peut se porter l'un à l'égard de l'autre, et en quoi en particulier la sexualité peut être un élément très prédicteur de comment ça se passe dans un couple.
Et qui est sûrement la chose la plus taboue. Déjà, c'est quelque chose d'assez tabou, la sexualité, mais encore plus dans la maladie, effectivement, la chose très taboue. Est-ce que je dis non? Est-ce que je dis oui pour faire comme si les choses allaient bien, comment je fais? On peut comprendre cette difficulté. Maria Maboula, ce que j'aime dans le témoignage de François aussi, c'est que il dit en même temps, le lendemain de l'annonce, on se prend un coup sur la tête, puis après il y a les enfants, faut les amener à l'école, faut faire tout ça. Vous en avez trois, des enfants. Et du coup, vous avez le sentiment que les enfants ont structuré en bien, au fond, ce tunnel que vous avez traversé, là, pour le coup, avec votre mari, parce que c'est ce qui tient debout, les enfants. Est-ce qu'ils ont aussi servi à ça, finalement, ou pas?
Oui, parce que là, ce qui était bien, c'est quand j'ai eu l'annonce, mon conjoint est venu et c'était pas autant pour moi que c'était important qu'il soit là, parce qu'on a une compréhension différente. C'est un moment très important. Vous avez la roue des émotions complètes qui tourne dans votre tête, et en fait, lui, il a sa compréhension avec ses bagages, et moi j'avais la mienne. Mais surtout, qu'on s'est dit, dans 6 kilomètres, je me suis dit, je rentre à la maison. Ma fille aînée avait 8 ans, j'avais la seconde qui avait 5 ans, et mon garçon qui allait sur 5 ans, et mon garçon avait 3 ans. Et c'est ce qui nous a accrochés à ce qui était de réel dans la vie. Parce que tout le reste est arrivé d'un coup, et on ne maîtrisait pas, on ne pouvait pas maîtriser. Et la seule chose qui nous restait peut-être de fiable, c'était les enfants. Donc je pense qu'on s'est accrochés là-dessus aussi, chacun à notre façon. Et comme le disait François, le couple et tout le reste est passé un petit peu après aussi, parce qu'on s'accroche à ce qu'on peut maîtriser, ce qu'on peut voir.
Voici Chris qui est avec nous. Bonsoir Chris.
Bonsoir.
On vous écoute ?
Moi, j'ai eu un cancer en 2013. J'avais 5 enfants qui avaient de 4 à 18 ans. Et voilà, et mon mari était démuni, dépité, était malheureux. Mais en fait, ça lui a permis de se rendre compte à quel point il tenait à moi. Et en fait, ça a été vraiment presque une nouvelle vie pour nous. Il a décidé de moins travailler, de plus profiter de la vie, et voilà. Et avec nos enfants, enfin, je me retrouve dans beaucoup de témoignages. Ça nous aide en fait à sortir de tout ça. On est obligé, on n'a pas le choix. Ils sont là, il faut eux, on leur annonce, et après ils passent vite à autre chose. Il faut vivre, quoi. C'est l'énergie de l'enfant. C'est alors, moi, je pensais qu'à me battre, à combattre, et mon mari était un petit peu, je dirais, observateur, et en même temps, il s'est senti un peu un petit peu admiratif, je pense, de mon combat et tout ça, et on a traversé tout ça ensemble.
Je vois Chris, parce que vous savez, on a les petits bouts de messages, moi je les ai devant les yeux, le début en tout cas. Il est médecin, votre mari, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Et alors, pour un médecin, est-ce que c'est encore plus désarçonnant, finalement? Parce que c'est pas votre médecin, c'est votre mari. Donc le rôle qu'il a joué là, c'est pas celui de médecin, c'est celui de mari. Ça a dû un peu tournebouler dans sa tête.
Tout à fait. En fait, il pouvait rien pour moi. Il était perdu. Il était complètement... voilà, lui, il est urgentiste. Ouais. Il n'est pas du tout dans le, dans le temps un peu plus long des traitements. Et
si
tout,
vous vous étiez cassé une jambe, il savait faire. Mais sinon, pour le reste, c'était plus difficile.
Oui, tout à fait. Et c'était encore un peu... Enfin, encore plus dur, je pense, pour lui, parce qu'il savait, il pouvait pas me guérir, quoi. Voilà. Mmh. Donc, il a fallu sortir de tout ça ensemble, et voilà. Et franchement, aujourd'hui, on est heureux, quoi. Tous
donc,
les
si,
deux,
si je comprends bien, il vous a fait de la soupe, contrairement à notre première auditrice.
Oui, aussi. Et enfin, je pouvais, j'avais une excuse pour aller me reposer. Parce que quand on a 5 enfants, on se repose pas, on est toujours, toujours au taquet.
Voilà.
Et voilà. Et j'avais une excuse. J'ai dit, là, je suis trop fatiguée, je vais me coucher. Et voilà.
Vous savez que normalement, on n'a pas besoin d'excuses pour dire à son mec de s'occuper des 5 enfants. Chris,
ben,
vous remercie.
Parce que là, il fallait quand même, il faut assurer, quoi. Il faut assurer pour les enfants. Donc, voilà. C'est un peu l'idée.
Je vous remercie pour votre témoignage, Chris. Merci beaucoup. On est dans le témoignage positif avec Christine et c'est tant mieux. On a le Cécile sur WhatsApp qui dit « Moi, j'ai envie d'apporter du positif. J'ai rencontré mon mari quelques semaines après l'annonce de mon cancer. J'ai essayé de le décourager en lui disant que c'était pas le bon moment, mais il n'a rien lâché. Il a été d'un soutien sans faille tout au long des soins et son amour m'a littéralement porté. Nous sommes mariés 3 ans plus tard et j'ai eu beaucoup de chance. Il a été exceptionnel, écrit avec des grandes lettres capitales, écrit en bâton. Ce que je trouve très joli dans les témoignages là et dans celui de Christine notamment, Patrick Bensoussan, c'est que son mari est médecin et subitement, voilà le médecin qui est tout démuni.
Oui, mais il n'y a pas vraiment besoin d'être médecin pour être démuni.
Ah, mais ça, je comprends.
Quand,
mais c'est...
quand ça se passe comme ça, non, dans une histoire de couple.
Ça, je comprends. Mais cette idée que il est médecin, mais c'est pas ses compétences dont on a besoin en fait à ce moment-là. Donc il y a quelque chose d'assez qui chamboule un peu dans la tête.
Bien sûr, mais c'est ce qu'on dit bien en termes d'intimité et d'humanité. C'est à ce niveau-là que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que c'est quel est le mode de relationnel qui était établi et comment on se débrouillait dans le lien avec son compagnon, sa compagne. Enfin, c'est vraiment des choses importantes hein, qui sont là, qui arrivent, hein, qui sont très existentielles, qui sont presque philosophiques, métaphysiques. C'est combien l'autre compte pour moi. Qu'est-ce que je fais pour lui, qu'est-ce que j'aspire pour lui, quel est l'avenir que je pense pour lui et donc aussi pour nous, enfin, toutes ces questions-là, quoi. Je voudrais juste revenir sur l'aspect des enfants, ouais. Vous savez, la convocation des enfants dans ces moments-là. Il ne faut pas que les enfants viennent aussi cacher le pouvoir du jouir, hein, pour le dire de façon crue. Hein. Je crois que les hommes et les femmes, ils ont aussi besoin d'un certain nombre d'expériences et de vécus qui les concernent eux en propre, quoi. Et qu'il y a une réalité de la sexualité qui est aussi importante à prendre en compte et à traiter. Hein. C'est bien et d'être bien avec son compagnon, de pouvoir partager des choses, de pouvoir avoir des moments de passion et des moments de tendresse, etc. Et la question qui est aussi posée dans le champ du cancer du sein, c'est cette idée-là, hein, de la féminité, de la sexualité. Donc c'est quelque chose qui se passe dans un autre registre que le modèle de la maternité et des enfants. Et il faut y être attentif aussi.
Un mot de Julie sur WhatsApp qui dit ceci: j'écoute votre émission sur le cancer du sein qui s'est invité dans notre vie l'année dernière. Ma compagne a subi chimiothérapie, mastectomie, radiothérapie, à nouveau chimiothérapie. Et je voulais témoigner sur le fait que je suis une femme et que le discours que j'entends sur les conjoints s'applique aussi aux conjointes, avec des implications qui sont similaires. Elle a raison, Julie, et c'est évidemment bien de le dire. Voici Dominique qui nous attend au standard. Bonsoir, Dominique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, bon, moi, j'ai un témoignage qui n'est pas forcément positif, parce que ça s'est terminé par un divorce. Mais voilà, je vais bien maintenant, donc je pense qu'on peut dépasser...
Ouais.
On peut dépasser tout ça, cela dit, c'est vraiment, ça a été très dur, bien sûr.
Et
ça date quand même d'il y a une quinzaine d'années.
Mm-hmm.
Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment, Dominique, que, au fond, 15 ans, c'est beaucoup? Et que peut-être aujourd'hui, avec ce qu'on sait, avec le fait qu'on a mis de la lumière sur le cancer, sur les chimiothérapies, etc., les choses auraient été plus faciles pour vous. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu jouer ou pas du tout ?
Je crois que c'est toujours pareil, en fait. Mm-hmm. Je pense que c'est toujours pareil. ça reste une épreuve énorme. Je pense que il faudrait qu'on en parle davantage, que l'on dise ça et que disons nos conjoints se rendent compte que c'est une qui doivent être là pour nous aider. Bon, maintenant il faut jamais voir les choses en noir et blanc. C'est-à-dire que pour ma part, c'est vrai qu'il y avait quelques fêlures déjà dans le couple, mais ça a été quand même un raz-de-marée à ce moment-là.
Et pardon hein, de vous poser une question très personnelle, mais il vous a lâché quand, en fait, à quel moment dans la maladie?
On va dire qu'il a été sympa pendant 15 jours.
Oui.
Ensuite, non, en fait, voilà, il y avait quand même déjà une histoire.
Bah ouais. Il y avait un terrain.
Par ailleurs, il y avait un terrain, voilà. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à pardonner, c'est clair.
Dominique, merci beaucoup et je comprends évidemment ce que vous nous dites. Des fois, on se dit, Patrick Bensoussan, que ouais, c'est rude hein, quand il arrive quelque chose pareil à Dominique, mais vu comment c'était parti, il vaut mieux vivre cette expérience-là toute seule que de se traîner en fait un conjoint qui, de toute façon, n'arrivera pas à suivre, enfin, pour dire les choses clairement, quoi. Un gros boulet, quoi.
Oui, mais dans le même temps, vous savez, de toute façon, c'est une expérience qui est dure, difficile, qui engage énormément d'énergie. Les traitements sont aussi compliqués, on n'en a pas assez parlé. Hein. Il y a un certain nombre de traitements qui entraînent des effets secondaires particulièrement importants au niveau du ressenti, du corps vécu, de la sexualité, de la libido. Enfin, donc il y a aussi des atteintes qui sont difficiles à interpréter parce que ça fait partie du traitement pour aller mieux, quoi. Donc c'est compliqué hein, de pouvoir adhérer à ce type de données. Et ce que vous dites là, ce que tous vos auditeurs ont dit, hein, il y a de la fatigue, on se sent pas pareil, on est débordé, on se pose des tas de questions, on est inquiet quand même pour le moins. C'est quand même une maladie mortelle, on peut en dire ce qu'on veut. Hein. Donc il y a toute cette charge là qui impacte, mais de façon résolue, hein, sur la femme, mais aussi donc sur son couple et aussi sur son conjoint ou sa conjointe. Et ça, c'est quelque chose qui, on l'a dit aujourd'hui encore, continue à être particulièrement pesant dans la vie des femmes qui sont atteintes de ces maladies.
Dominique, vous vouliez ajouter un mot, puisque vous êtes toujours là ? On vous écoute,
oui,
Dominique ?
Je suis toujours là. Oui, en fait, pour ma part, le sentiment qui a dominé pendant tout ce moment, c'était la colère, en fait. Et cette colère n'a pas été du tout comprise. Je pense que la colère, elle fait partie de ce qu'on traverse quand on a un cancer. Cette incompréhension a finalement hâté la fin. Donc, je pense qu'il faudrait expliquer un peu mieux quels sont les sentiments que l'on traverse à ce moment-là et comment ça peut impacter sur la vie de couple, en fait.
Et qu'on a le droit à la colère, en fait. Mariam Abdullah, vous vous souvenez ?
Je pense qu'on y a droit. Ouais. Moi, j'y tenais beaucoup parce que cette colère m'a donné beaucoup d'énergie, en fait.
Absolument.
Pour en sortir.
Elle peut être aussi conseillère, cette colère.
Je peux terminer juste sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je n'ai pas de regrets. Je pense qu'on n'aurait pas pu continuer comme ça parce que, en fait, moi, je sais que je ne rajeunis pas. Je peux avoir d'autres maladies si mon compagnon se comporte comme ça une fois. Pourquoi continuer ?
La colère, vous l'avez acceptée, vous, Mariam Abdullah ? Vous l'avez embrassée, la colère, quand il le fallait ?
Oui. J'ai été en colère parce que j'ai pas compris, mais ça c'est normal au départ, avec du recul je sais que c'est normal, mais on ne comprend pas ce qui nous tombe sur la tête.
Mais, pardon, et, vous je sais que c'est l'heure et je vous ai fait signe, mais vous avez le droit de finir votre phrase.
Et en fait il faut qu'on soit accompagné, et aujourd'hui ce qui me rassure, donc juste pour finir, ce qui me rassure, c'est que on en parle de plus en plus. Il y a des associations, il y a la Ligue, il y a des personnes qui peuvent accompagner les conjoints, les aidants et les patients. Et ça, faut bien le signaler, qu'on a accès. Et plus on en parle, plus on peut avoir des échanges.
Je vous remercie mille fois, je vous remercie. Parce qu'on est très en retard, j'ai vu ce message de Nina et je voudrais la saluer, Nina, sur WhatsApp, vraiment, qui dit « Bonsoir, diagnostiqué le 19 mai, je venais de rencontrer mon compagnon depuis moins d'un an, je le vis très mal ce timing, c'est compliqué, surtout quand certains de l'entourage nous font sentir qu'il va falloir sauver le couple en même temps que nous sauver d'abord. La psychologue spécialisée m'aide beaucoup, je dois être sur tous les fronts, heureusement je n'ai pas encore d'enfant, dit-elle. Le couple pour le moment se consolide et pourvu que ça dure, eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Nina, et on vous embrasse très fort. »